Bonjour Patrick Boyer, effectivement, il y a 50 ans, jour pour jour, la guerre la plus courte du XXe siècle.
Nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever, un bateau d'assaut vient se ranger le long de notre bâtiment et nous allons débarquer sur une...
D'histoire. Une petite coupure et puis nous revoilà. Il y a donc 50 ans, jour pour jour, le 6 novembre 1956, à l'aube, un corps expéditionnaire franco-britannique débarquait à Port Saïd et à Port Fouad, à l'extrémité nord du canal de Suez. Le prétexte de cette opération, l'opération Mousquetaire, était d'arrêter une guerre entre Israël et l'Égypte, déclenché quelques jours plus tôt par une offensive israélienne dans le Sinaï. Mais l'objectif réel des parachutistes anglais et français était de prendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé en juillet par les Égyptiens, puis de foncer sur le Caire pour y renverser le régime du colonel Nasser. Mais ce que n'avaient pas prévu les gouvernements de Paris et de Londres, c'était la réaction des deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui, malgré la guerre froide, allait se mettre d'accord pour arrêter en 24 heures la guerre la plus courte de l'histoire.
La nationalisation du canal par Nasser, qui datait de la fin juillet, avait amené l'Angleterre à proclamer l'état d'extrême urgence. La tension n'avait cessé de monter entre l'Égypte et les deux nations intéressées à l'exploitation du canal, la Grande-Bretagne et la France. La France et l'Angleterre passent à l'offensive pour occuper elles-mêmes cette zone. Les unités d'assaut s'empareront rapidement de Port Fouad et de Port Saïd. Le risque est grave. Cette opération peut être le détonateur qui fera exploser la bombe d'une guerre générale. Mais les deux géants mondiaux vont démontrer que désormais la guerre ou la paix dépend de deux et d'eux seuls. Les États-Unis et l'URSS pour la première fois s'unissent pour arrêter le conflit de Suez.
Georges Etelger, bonjour. Alors ce conflit de Suez, il s'est produit il y a 50 ans tout juste, vous en parlez très longuement dans le quatrième volume de votre passionnante histoire de la 4e République, un conflit étonnant puisqu'on vient de l'entendre, on a vu côte à côte les États-Unis et l'URSS se mettre d'accord contre la France, la Grande-Bretagne et Israël, mais avant d'y revenir, j'aimerais que vous nous rappeliez l'origine de cette guerre, car en débarquant en Égypte en 1956, eh bien les Anglais, les Français n'avaient pas l'intention de conquérir bien sûr le pays, mais d'y renverser celui qui le dirigeait, le colonel Nasser, parce que c'était un peu la bête noire de tout le monde, des Anglais, des Français, mais d'abord des Israéliens. Pour eux, c'était un danger, Nasser.
C'était simplement un danger pour eux, puisque depuis son arrivée au pouvoir en 1954, dans ses discours et dans ses écrits, la philosophie de la révolution, le colonel Nasser ne cesse d'affirmer sa volonté de restaurer la puissance de la nation arabe, de la rétablir dans le monde entier, en luttant contre tous les colonialismes. Et surtout, il veut que cette restauration se fasse autour de la capitale historique de l'islam qu'est le Caire. Et un tel objectif, cette nation arabe tellement forte, ça suppose, cela va de soi, la destruction de l'État d'Israël.
Et alors, un armement, c'est ça qui inquiète beaucoup les Israéliens, Georges Etelger, qu'il va chercher, alors là c'est la grande surprise, en URSS, ou plutôt c'est avec l'accord de l'URSS qu'il va équiper une armée qui va devenir de plus en plus puissante, ce qui inquiète Israël.
Bien non, sûr. C'est-à-dire qu'à partir de 1955, les Français qui, jusque-là, vendaient des armes à l'Égypte, refusent d'en vendre parce qu'ils veulent respecter un certain équilibre des forces dans leur région. Et ne pouvoir plus trouver des armes en Occident, Nasser annonce qu'il va les demander aux Russes. Et dans toutes les chancelleries du monde occidental, cette annonce provoque le fou rire général de tous les experts. Jamais le Kremlin ne fera quoi que ce soit pour Nasser, qui est un anticommuniste farouche. En Égypte, tous les communistes sont emprisonnés ou presque. Mais c'est méconnaître Khrouchtchev, qui depuis l'année précédente, depuis la conférence de Bandung, a effectuer une révision déchirante de la politique coloniale jusque-là menée par Moscou. Pour Staline, il était impossible, tout mouvement d'émancipation nationale qui n'était pas strictement d'obédience communiste était un ennemi. Pour Khrouchtchev, en revanche, du moment qu'un pays lutte contre une ancienne puissance coloniale, peu importe s'il soit communiste ou non, et à la stupéfaction générale, il accorde immédiatement à Nasser ce que celui-ci lui demande, ce qui va déclencher la fureur des Occidentaux et ce qui est à l'origine un peu de la fête de Suez, comme vous savez, Nasser poursuit un rêve pharaonique, qui est la construction d'un immense barrage.
Oui, parce qu'il veut faire de son pays aussi une puissance économique. Exactement. Et ce barrage, qui sera le barrage d'Oissan sur le Haut Nil, il demande pour cela une aide occidentale.
Exactement, et l'aide occidentale, on la lui promet d'abord, et finalement, après qu'il ait fait accord avec les Russes, les Américains la lui refusent pour deux motifs. D'abord, pour le faire rentrer dans leur rang, ça lui apprendra à flirter avec Moscou, et ensuite, sous la pression du lobby cotonnier américain, qui n'a aucune envie que des milliers d'hectares supplémentaires augmentent la production cotonnière égyptienne. Seulement, ce que les Américains n'ont pas prévu, c'est que les Russes sont tout prêts à donner les crédits nécessaires.
En tout cas, furieux de la réaction des Occidentaux, des Américains qui refusent des crédits pour le barrage d'Assouan, et également de la Banque mondiale qui refuse, eh bien, Nasser est en colère et prend une décision qui est aussi à l'origine de la crise de Suez.
Elle est à l'origine.
Nationaliser le canal qui traverse l'Égypte, mais dont la gestion est assurée par la France et la Grande-Bretagne. Une décision qu'il rend publique solennellement devant 200 000 Égyptiens rassemblés sur la place Mohamed Ali d'Alexandrie le 26 juillet 1956. À l'instant où je vous parle, dit-il, eh bien, les fils de l'Égypte prennent possession de la compagnie du canal, la compagnie égyptienne du canal, et non pas la compagnie étrangère du canal, le canal qui se trouve en terre d'Égypte, le canal qui traverse la terre d'Égypte et qui est une propriété de l'Égypte. Que Dieu vous guide vers le succès et que sa paix soit sur vous.
بيستلموا شركة القناة شركة القناة المصرية مش شركة القناة الأجنبية قاموا دلوقتي ليستلموا شركة القناة ومرافق شركة القناة ويديروا الملاحة في القناة القناة اللي بتقع في أرض مصر ولنبني طروحا جديدة في العزة والكرامة وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
Extraordinaire ce discours de Nasser Alexandrie. En plus, il se termine par un éclat de rire magistral. Le monde entier est étonné. Au moment où il parle, précisément, les forces égyptiennes prennent possession du canal, Georgette Elgey. Et là, c'est vraiment un défi à la France et à la Grande-Bretagne, deux autres pays qui ont cette fois-ci intérêt aussi à ce que disparaisse Nasser.
Oui, c'est un défi total. Vous savez que Nasser, dans son discours, a prononcé le nom de Ferdinand de Lesseps, le constructeur du canal. C'était le mot code qui devait donner l'ordre aux forces égyptiennes de s'emparer du canal, des bureaux de la compagnie du canal. Il faut vous dire, avant de parler de la réaction française et américaine, que les Égyptiens sont d'autant plus heureux de la décision de Nasser que la compagnie du canal de Suez constitue au Caire un état dans l'état. Dans la plupart des pays pétroliers, les bénéfices sont partagés à égalité entre le pays qui possède les richesses et les compagnies étrangères qui exploitent. Contrairement à ça, le canal de Suez, l'Égypte ne touche pratiquement rien des colossales bénéfices que rapporte l'exploitation du canal. Bon, le canal de Suez, c'est vraiment le symbole de la puissance française et anglaise. Donc, une chance à l'annonce que Nasser a nationalisé, la fureur s'empare de Londres et de Paris.
Alors, les Anglais sont également furieux parce qu'ils savent que Nasser, d'abord a chassé l'armée britannique d'Égypte deux ans plus tôt. Ils sont furieux aussi parce que la popularité de Nasser dans le monde arabe fait de l'ombre à l'influence des Britanniques dans la région. La France également est furieuse parce que elle possède des intérêts dans le canal, mais il y a une autre raison, Georgette Elgey, vous le rappelez, c'est que Nasser aide le FLN algérien. Nous sommes au début de la guerre d'Algérie.
C'est-à-dire que la France est aux prises avec la guerre d'Algérie et les dirigeants français trouvent commode d'expliquer ce qui se passe en Algérie par le rôle de Nasser. Parce que Nasser abrite au Caire différents leaders du Front de Libération Nationale
algérien. La délégation extérieure de Ben Bella se trouve au Caire.
Oui, avec Ferhat Abbas qui les rejoint rapidement. Et aussi parce qu'il vous donne des armes, pas tellement, mais surtout parce qu'il a mis en place une radio extraordinairement puissante, la Voix des Arabes, qui émet 300 heures par semaine et qui ne cesse de prôner la cause de l'indépendance algérienne. Donc, les dirigeants français ont décidé que si Nasser n'existait plus, c'en était fini de la guerre d'Algérie.
En tout cas, en France, effectivement, tout le monde, hein, ou presque, souhaite que le gouvernement du socialiste Guy Mollet réagisse fermement à la nationalisation du canal, aussi bien François Mitterrand que le gaulliste Jacques Chaban-Delmas.
Rien ne devra ralentir la détermination commune des gouvernements de Londres et de Paris, sous peine de reconnaître la vanité de nos efforts et une sorte d'impuissance qui serait le signe, d'aucuns diront un signe supplémentaire, de la décadence irrémédiable de l'Occident.
Un vieux pays comme le nôtre, à quelque époque de son histoire, n'a jamais mérité d'être traité avec mépris. La France a le droit d'être traitée comme une grande personne appartenant à la société des nations. Si cette règle disparaît de la surface du monde, la paix sera désarmée à la merci du premier aventurier venu. Et c'est pourquoi, pour sauver la paix, et c'est pourquoi, pour maintenir les règles fondamentales de la civilisation dont nous sommes les défenseurs, la France n'a pas le droit d'être faible.
Alors, ce que dit François Mitterrand en août 56, vous seriez, Georges Attelger, je sais que vous avez été conseillère de François Mitterrand dans les années 80 à l'Élysée. Alors, en fait, tout le monde pense la même chose,
tout le monde.
En France, on veut en découdre contre Nasser.
Non, il y a deux exceptions dans la classe dirigeante. Pierre Mendès France, mais Pierre Mendès France a quitté le gouvernement. S'il a une influence morale certaine sur toute une partie de la population, il n'a pas de poids politique à l'époque. Et l'autre, qui est totalement opposé à toute intervention militaire, c'est le président de la République, René Coty. Il le dit au Conseil des ministres. Mais la Constitution de la 4e République est telle que l'avis du président de la République ne compte pas.
Il faut ajouter les communistes qui sont contre aussi.
Oui, mais les communistes sont contre pour des motifs qui n'ont rien à voir. Qui démontre ce qu'est leur stratégie. Depuis que le gouvernement Guimollet a été fondé et a été créé en janvier 1956, les communistes lui ont apporté un soutien sans faille, votant les
pleins pouvoirs
pour
l'Algérie,
etc. Pourquoi ça? Parce qu'ils veulent à tout prix sortir du ghetto dans lequel ils sont enfermés depuis qu'ils ont été chassés du gouvernement en 1947. Mais avec Nasser se pose un problème nouveau, c'est que Nasser est l'allié de la Russie. Donc, ils ne peuvent pas soutenir une opération contre un allié objectif de Moscou, et c'est l'affaire de Suez qui précipite les communistes dans l'opposition. Je voudrais, à propos des motivations de Guimollet, ajouter quelque chose. C'est que pour Guimollet...
Donc le chef du gouvernement français à l'époque.
C'est que Guimollet est socialiste, comme vous le savez, et pour les socialistes français, à l'époque, Israël est une sorte de symbole. Israël est un État socialiste. Il voit en Israël l'État socialiste qui va réconcilier liberté et égalité. Donc il s'agit à tout prix de sauver Israël.
Alors il y a ça, il y a aussi le fait que Guimollet, aussi bien que le chef du gouvernement britannique, qui lui aussi dans cette affaire va jouer un rôle déterminant, c'est lui qui va décider l'intervention avec la France et Israël, c'est Anthony Eden, tous sont convaincus qu'au fond Nasser c'est un peu Hitler, et que céder devant lui, devant cette nationalisation, ce serait au fond faire comme à Munich en 1938. Mais devant Hitler.
Ils en sont absolument convaincus, et si vous voulez, Anthony Eden au moment de Munich a été un des rares responsables britanniques avec Winston Churchill à s'opposer aux accords de Munich. Et Eden est absolument convaincu que ne pas casser Nasser, c'est recommencer l'erreur fatale de Munich.
Alors il y a des gens dont il faut tenir compte, des pays, il y a les États-Unis. Les États-Unis font tout pendant cet été, vous appelez ça l'été des dupes, Georges Attelger, pour essayer de trouver un compromis. On invente une neutralisation du canal, son internationalisation.
Les États-Unis sont dirigés alors par le général Eisenhower, qui bien que ce soit un stratège militaire de génie, est profondément pacifiste. Il fait toute sa campagne présidentielle, il va être réélu à ce moment-là, sur le thème de la paix. Il ne peut pas supporter l'idée d'un conflit. Que d'autre part, les États-Unis se veulent les défenseurs, les seuls véritables anticolonialistes au monde.
Oui.
Donc, ils ne veulent pas s'opposer à Nasser. Et pour eux, l'essentiel, c'est de calmer les Français et les Anglais. Ils pensent que les ardeurs belliqueuses des Français et des Anglais n'ont pas de sens, mais en même temps, ce n'est pas très grave. Ils sont convaincus que les Français et les Anglais ne peuvent rien faire.
Alors, nous sommes pendant l'été. On prépare dans les états-majors français et anglais une opération qu'on va baptiser, il y en aura même plusieurs plans, le plan mousquetaire. Et alors surtout, il y a une chose extraordinaire qui se produit au mois d'octobre, c'est une réunion ultra secrète, on n'en a eu connaissance que beaucoup plus tard, entre les autorités françaises et britanniques, quelques autorités, parce que il y avait une poignée de ministres et de militaires français et anglais qui étaient au courant, reçoivent secrètement le premier ministre israélien Ben Gourion, le chef d'état major de l'armée israélienne, Moshe Dayan, et on parle de beaucoup de choses. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante, Georges Attelger, vous l'apprenez dans ce livre, c'est que c'est à ce moment-là que la France donne son feu vert pour que Israël ait la bombe atomique.
Non, alors il faut revenir un peu en arrière. Si vous voulez, dans l'été 56, Eden d'abord est à fond pour une opération militaire, mais il dit qu'il ne fera rien sans les Américains. Les Américains n'en veulent pas, la situation est bloquée. Et c'est alors que Maurice Pourchette-Monnery qui est ministre de la Défense nationale et qui est très proche d'Israël, a l'idée d'une action concertée franco-israélienne. Bon, il met ça plus ou moins sur pied, et lorsqu'il en parle à Eden, Eden dit « mais pourquoi pas ?» Et Eden accepte. D'où les réunions secrètes qui ont lieu en octobre, du 22 au 24 octobre à Sèvres, dans la région parisienne. Des réunions totalement loufoques, puisque le ministre des Affaires étrangères, il va sans chauffeur, qui mollait d'eux-mêmes, ils sont pas revenus aux heures de la résistance, personne n'est au courant, Eden n'en a parlé à personne, et Eden a envoyé deux de ses diplomates, il n'en a parlé à personne, car en Grande-Bretagne, l'hostilité envers Israël est très grande. Or, on explique à Ben Gurion, qui est tout heureux d'avoir été convié par les grandes puissances, on explique à Ben Gurion ce qu'il attend de lui, l'armée israélienne attaquera, et ensuite les Français et les Anglais interviendront pour calmer le jeu. Bon, et Ben Gurion refuse catégoriquement, en disant il n'est pas question qu'on se lance là-dessus. Et au bout de 48 heures après, Ben Gurion accepte tout. Alors, pourquoi est-ce que Ben Gurion a accepté le plan qu'il avait d'abord proposé? Eh bien, on doit constater que les réunions de Sèvres sont du 22 au 24 octobre. Le 24 octobre, c'est l'accord de Ben Gurion après le revue. Mais le 25 octobre au matin, un conseil des ministres ultra-secret français donne l'ordre au commissariat à l'énergie atomique d'accorder au gouvernement israélien ce que les atomistes israéliens réclament depuis des années, la capacité de produire du plutonium, et à partir du moment où vous produisez du plutonium, vous pouvez produire l'arme nucléaire.
C'est comme ça qu'est née la bombe israélienne. Exactement. Ça, c'est extraordinaire, Georges Telger. Alors, vous l'avez dit, Ben Gurion accepte ce protocole d'état secret, qui est un montage parfaitement hypocrite et complètement ambigu. Je résume. Une offensive israélienne est prévue, donc, elle aura lieu le 29 octobre, elle sera suivie d'un ultimatum franco-britannique. Les Français et les Anglais feront semblant d'ignorer les intentions israéliennes. Un ultimatum exigeant la séparation des combattants israéliens et égyptiens. Et devant le refus prévisible de Nasser, eh bien, la France et la Grande-Bretagne pourront débarquer, sans avoir l'air d'être des agresseurs, mais en étant des arbitres. C'est ainsi que ce protocole de Sèvres, signé le 24 octobre, eh bien, prend effet 5 jours plus tard lorsque l'armée israélienne, Tsahal, lance une grande offensive aéroterrestre dans le Sinaï, l'opération Kadesh.
Ici, Jérusalem. Au cours de ces dernières 24 heures, les Israéliens ont eu à affronter l'ennemi sur mer et dans les airs. Ce matin, deux chasseurs à réaction égyptiens, un MiG et un Vampire, ont été abattus au cours d'un engagement aérien. Ce qui porte, au moment où nous émettons, à 7 le nombre des avions égyptiens descendus depuis hier soir.
Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h30 du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies.
The government of the United States feels that it is imperative that the Council act in the promptest manner.
Le gouvernement des États-Unis considère qu'il est impératif que le Conseil de sécurité des Nations Unies ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son intervention militaire et de retirer ses troupes derrière la ligne de cessez-le-feu.
Et c'était le début de cette guerre qui commence le 29 octobre et qui reste d'ailleurs jusqu'au 31 octobre une guerre israélo-égyptienne avant que la France et la Grande-Bretagne, conformément au protocole de Sèvres, interviennent. Georges Telger, ce qu'on vient d'entendre là, c'est une déclaration du gouvernement américain. On oublie, vous l'avez dit, qu'à l'époque, il ne soutient pas du tout Israël. C'est les Américains qui exigent le retrait des troupes israéliennes.
Les Américains sont absolument fous furieux. Ils n'avaient pas cru une minute qu'une telle éventualité pouvait se réaliser. Que les Français, à la limite, aient attaqué Nasser, ils n'ont pas une grande estime pour les Français, et ils n'auraient peut-être pas réagi avec une telle violence. Mais que les Anglais, leurs alliés préférés, aient fait une telle chose sans les prévenir, en les mettant devant le fait accompli, ce n'est pas tolérable.
Mais là, il n'y a pas encore d'Anglais. Ça, c'est pour l'instant l'intervention israélienne.
Oui, mais déjà, ils ont encore l'intervention. Vous savez, il y a un lobby pro-arabe très puissant aux États-Unis. Les Américains ne sont pas encore le soutien inconditionnel d'Israël.
Alors, il y a ça. Il y a le fait, on a entendu des bombardements. Oui. Il faut savoir, et vous le révélez aussi dans votre livre, Georges Telger, ça a été connu que beaucoup plus tard, il y a
eu des avions français, avant que la France intervienne encore, des avions et des pilotes français qui ont aidé les Israéliens dans leurs opérations jusqu'au 31
oui,
octobre.
Oui, pour montrer à quel point, jusqu'où allait la collaboration militaire franco-israélienne, il faut savoir que nous avons envoyé quelques avions français en Israël. Ces avions, on a supprimé les bandes tricolores, on va aussi montrer la nationalité de ces avions, pour les remplacer par les emblèmes de l'État d'Israël, et les pilotes français qui conduisaient ces avions ont été priés de se débarrasser de leur papier d'identité militaire français et de se munir de faux papiers israéliens. Et le général qui me racontait cela me disait sa terreur à l'idée que si jamais ces pilotes étaient faits prisonniers, de quoi on lui en voulait.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le secret a été gardé pendant des années, puisqu'il s'agit de pilotes et d'avions français qui se sont battus avec les Israéliens au début du conflit, mais maintenant, comme prévu, à partir du 31 octobre, comme prévu par le protocole de Sèvres, tout à fait hypocritement, les Français et les Anglais qui ont faim d'être surpris par l'offensive israélienne, eh bien, envoient un ultimatum, d'une part à Nasser, d'autre part à Ben Gurion, exigeant l'arrêt des combats. Comme prévu, Nasser refuse cet ultimatum, et ce qui permet, ce qui sert de prétexte aux Français et aux Anglais, un débarquement en Égypte, sans tenir compte de la mise en garde du président des États-Unis Eisenhower, qui veut faire appel à l'ONU.
Les États-Unis n'ont jamais été consultés au sujet de cette invasion. Nous avons l'intention de porter cette affaire devant l'Assemblée générale de l'ONU. Là, l'opinion internationale pourra contribuer à trouver un règlement juste à ce problème angoissant.
Nous sommes en vue des côtes égyptiennes. Mardi 6 novembre, le jour vient de se lever et un LMC, un bateau d'assaut, vient se ranger le long de notre bâtiment avec les parachutistes de la Légion étrangère. Je vais passer sur ce bateau et nous allons débarquer sur une plage de Port Fouad. À Port Fouad, le combat continue sur la rive opposée, sur la rive de Port Saïd. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes et déjà au loin, nous entendons tonner les canons anglais.
Et c'était Jacques Paoli, le 6 novembre 1956, jour d'un débarquement du corps expéditionnaire franco-britannique en Égypte, précédé la veille par des parachutages de parachutistes français et anglais. Une véritable promenade militaire. Très vite, ils vont se retrouver à 35 kilomètres au sud de la Méditerranée. Et c'est à ce moment-là, alors que le débarquement vient de se produire, Georgette Elgey, que on assiste à un ultimatum des Soviétiques et des Américains qui exigent l'arrêt des opérations au moment où elles viennent de commencer.
Avec une violence verbale extraordinaire des Soviétiques, puisqu'ils menacent d'avoir recours à l'arme nucléaire.
Oui, exactement.
Et avec une violence, non pas verbale, mais financière, beaucoup plus redoutable des États-Unis, puisque la Grande-Bretagne est dans une situation financière très difficile, et que Eden est informé que, la Grande-Bretagne, que les États-Unis lui coupent toute possibilité de crédit.
Oui.
Donc la Grande-Bretagne est acculée, elle est mise en faillite par les États-Unis.
Quelques heures après, oui, parce qu'il y a aussi les États-Unis. C'est Eisenhower lui-même qui téléphone
c'est
à Eden.
Qui téléphone à Eden, et Eden téléphone à Guimolet. Eden est absolument effondré, il explique qu'il ne peut pas ne pas céder. Oui. Guimolet s'insuit.
Oui, alors d'autant plus que l'opération était commandée en chef par les Britanniques. Les Français eux-mêmes sont obligés de retirer leurs troupes quelques heures après qu'elles aient débarqué. En tout cas, les deux pays doivent arrêter leurs opérations à partir de la nuit du 6 au 7 novembre. Et cela, même si ça a été un succès militaire, c'est une déroute politique pour les gouvernements anglais et français qui devront retirer leurs troupes, ce qui n'empêche pas Guimolet de fanfaronner à la radio trois jours plus tard, le 9 novembre.
Nasser a perdu la face. En quelques jours, en quelques heures même, sa puissance militaire s'est effondrée. Cette déroute égyptienne, à quoi l'attribuer? Les témoignages des prisonniers, comme de tous les observateurs, sont unanimes. Les soldats égyptiens n'étaient pas prêts à mourir pour Nasser. Quant aux officiers, ils ont été les premiers à fuir, laissant sans vergogne faire prisonniers leurs hommes abandonnés à eux-mêmes.
Les unités franco-britanniques seront relevées par les casques bleus des Nations Unies qui veilleront au déblaiement du canal obstrué par des épaves. Ainsi se terminait un grave conflit né à propos de l'une des plus grandes réalisations humaines créée par le français de Lesseps pour servir de trait d'union entre les peuples.
Le bilan de cette crise, de cette guerre très courte de Suez, Georges Etienne, dans la préface d'un dossier de la revue Historia, vous écrivez que l'affaire de Suez a modifié profondément l'équilibre des forces au Proche-Orient et que ses effets se font ressentir encore aujourd'hui, alors qu'on a complètement oublié cette affaire de Suez aujourd'hui. D'ailleurs, je remarque que personne dans les médias ne parle de ce 50e anniversaire.
Oui, alors que finalement, l'équilibre du Moyen-Orient actuel a été fait à partir de l'affaire de Suez.
Mais en quoi, justement?
Mais si vous voulez, jusqu'à l'affaire de Suez, il y a deux puissances extérieures qui sont très influentes au Moyen-Orient, c'est la France et la Grande-Bretagne. À partir de l'affaire de Suez, elles perdent toute influence sur cette région du monde. Enfin, elles perdent l'essentiel de leur influence. Les États-Unis, jusque-là, ils sont très proches de l'Arabie Saoudite, mais ils ont tout de même une influence limitée. Jusque-là, ils vont avoir une influence de plus en plus grandissante. Et l'Union soviétique...
Et se rapprocher d'Israël.
Et se rapprocher d'Israël.
Donc, ils sont maintenant les principaux et presque seuls alliés, enfin, inconditionnels.
Oui, inconditionnels. Mais pourquoi ils sont devenus les alliés inconditionnels? Parce que l'Union soviétique a fait aussi, à ce moment-là, son arrivée en force au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient devient ainsi, ce qu'il est toujours dans une certaine mesure, un terrain d'affrontement entre les deux super-grands. Et dans la mesure où l'Union soviétique soutient à fond l'Égypte et la Syrie, les ennemis déterminés d'Israël, Washington va accorder à Israël sa garantie au droit de l'existence.
Nasser va en tirer un prestige considérable. Il y a une autre conséquence très importante, Georges Etelger, c'est que l'armée française, furieuse qu'on lui ait volé sa victoire, parce que sur le plan militaire, il n'y avait pas de problème, elle désobéit de plus en plus au gouvernement, et que 2 ans plus tard, on la verra en tête du 13 mai 58, qui va renverser la 4e République.
Pas toute l'armée française, mais il est absolument certain que l'expédition de Suez a contribué au désenchantement, et le mot est faible, à la révolte, l'arrivée de la plus grande partie de l'armée française, tout au moins de l'armée de carrière, contre le pouvoir politique, incapable de lui laisser le profit de la victoire qu'elle avait emportée.
Merci Georges Etelger. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, le 4e volume, d'ailleurs les 3 volumes précédents sont passionnants, de votre histoire de la 4e République, publié aux éditions Fayard. Il y a un 5e et dernier volume qui sortira, je crois, l'année prochaine, au mois de septembre, toujours chez Fayard. À lire également une biographie consacrée à Guy Mollet de François Laffont chez Fayard, ainsi que la revue Historia de novembre, dont vous avez préfacé, Georges Etienne, un dossier passionnant consacré au rapport entre les Palestiniens et les Israéliens, une terre pour deux peuples. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1956, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Enfin, je signale qu'à partir d'aujourd'hui, et durant 3 semaines, nous vous proposons un nouveau jeu concours, France Inter, Le Figaro, pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Il vous suffit de répondre à la question du jour. La même année que la crise de Suez, en 1956, quel artiste a peint Nature morte vivante? Pablo Picasso, Salvador Dali ou Francis Bacon? Je répète, Pablo Picasso, Salvador Dali ou Francis Bacon. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et les renseignements sur notre émission en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lydine Caron, Sébastien Royer, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et notre réalisatrice Anne Kobilac.